prenez-en l'habitude. Tous les mercredis, 8h30, on parle avec notre chroniqueur de hockey, Bruno Gervais.
Quelle
heure? 8h30. Bruno, bon matin!
Bon matin!
Comment tu vas?
C'est le plus beau jour de toute ma vie!
Ah, parle-moi de ça! Là, j'aime ça entendre ça. Hey, Bruno, quand t'étais kid, toi, tu jouais avec des hockey de bois, j'imagine, au début, quand t'étais dans le hockey mineur?
Ah ben oui, puis moi je me suis rendu junior, je jouais avec les bons vieux Sherwood, même qu'à mes premiers camps professionnels, j'ai voulu garder mes bâtons de bois le plus longtemps possible. Puis je me rappelle un de mes premiers matchs hors concours dans la Ligue nationale avec les Islanders, on jouait contre les Bruins de Boston, puis Patrice venait d'être repêché avec les Bruins à Patrice Bergeron, et on faisait le warm-up et le match était au Aberyard au Connecticut à Bridgeport. Et on jouait un contre l'autre, puis tout le monde avait des One Piece partout, puis il y avait juste deux bâtons rouges Sherwood qui flashaient, le rouge parce qu'on jouait à Bathurst ensemble, puis c'était la couleur de nos bâtons Sherwood, puis les deux, on les adorait, puis ça a été long de me séparer de ça. J'ai essayé de faire un retour à ma deuxième année même professionnelle, après avoir joué avec un One Piece, j'ai essayé de revenir au bâton de bois, mais là, ça, c'est impossible.
Ah, c'est ça, tu sais, la technologie a démontré. Moi, je jouais avec les anciens nordiques. Dave Pichette jouait encore avec des bâtons de bois, là, ces bâtons, mais tu sais, à un moment donné, quand tu réussis à t'adapter à la technologie, donc au bâton plus léger, plus stiff, c'est un peu difficile, mais ça l'a amélioré la game de tout le monde en même temps.
Ah, c'est certain. La façon de lancer a beaucoup évolué. Quand tu parles de performance, tu le dis, c'est tellement... Après ça, c'est devenu un outil. Puis là, ils se sont mis à développer là-dessus. Puis ça l'améliore ton lancer, c'est sans doute. Des fois, c'était le confort. Et ça devenait aussi mental. Là, voyons, quand ça allait bien avec ça, c'était simple. Surtout l'ajustement. Le gros ajustement au début était la palette, la rondelle explosait quand on venait frapper ta palette. Fait que ça prenait beaucoup plus d'habileté, oui, de recevoir, oui, les passes que le bâton de bois ou la rondelle, elle allait juste mourir là puis rester sur ta palette.
Mais les meilleurs comme Ovechkin, Crosby, les meilleurs shooters, là, ils collaborent, communiquent beaucoup avec les compagnies de fabrication de bâtons. C'est de plus en plus spécialisé, spécifique, les bâtons.
Ben, Bruno, il me semble que j'ai vu un bout de reportage que tu as fait avec Max. Vous étiez dans un endroit avec une glace en plastique, là, puis vous aviez des caméras, des sensors partout, là, puis vous faisiez des shots. Ils voulaient voir la réaction du bâton, ça se peut-tu?
Oui, on a fait ça avec CCM. Dans le fond, ça a tellement évolué dans les dernières années, puis toutes les données qu'ils sont capables d'aller chercher pour vraiment choisir le bâton spécifique à un joueur, à un type de joueur, parce que c'est différent. T'as 700 gars dans la Ligue nationale, ils ont 700 façons différentes de lancer. C'est que ça soit avec la force, que ça soit plus avec les poignets, peu importe. Mais on est allé avec au bureau ici à Montréal de CCM. Ils ont une patinoire en arrière, ils font des tests, il y a des caméras, il y a des sensors sur le bâton, sur les rondelles, puis il y a tellement de données qui sortent de là, puis on faisait le test, puis c'était de voir, tu peux savoir exactement le flex que tu as besoin sur ton bâton, le type de bâton que tu as besoin, ouais, dépendamment si tu mets un peu plus de poids vers le bas de ton bâton, vers le haut, fait qu'ils sont capables d'aller chercher le bâton exact pour toi, puis ça va même encore plus loin que ça quand t'es un Ovechkin, un Crosby, le détail, ils vont fabriquer de quoi juste pour toi, puis certains de ces joueurs-là m'ont dit qui les font travailler puis qui les font suer en masse, ces compagnies-là, oui, pour être capable de sortir avec le meilleur patin et le meilleur bâton possible.
Alors, supposons que je suis un parent d'un jeune joueur, puis oui, mettons, là, puis je te connais pas, là, puis tu connais pas mon enfant, mais je te crois, je dis, hey, justement en train de regarder pour acheter un bâton à mon fils, qu'est-ce que je prends? Je prends-tu plus flex, donc plus flexible ou plus rigide, qu'est-ce que je prends? Peux-tu conseiller quelqu'un comme ça en disant, moi c'est drôle, j'ai l'impression que plus tu le prends flexible, plus de maniabilité tu vas avoir, puis de précision. Toi, tu conseillerais quoi? T'as tout essayé ces bâtons-là, tu recommandes quoi quand on te le demande?
Bien, ça, c'est une très bonne question. Et la première affaire, je vais dire, c'est arrêter d'acheter le bâton selon le nom sur le bâton. C'est pas parce que c'est qui Crosby que c'est exactement le bâton pour ton gars.
Mais j'ai fait faire des Dupont, je n'ai vendu un hostie de paquet. Je m'excuse.
Mais ça, c'est ça. À moins que ça soit Dupont, là, ça te donne 20 buts en partant, mais, c'est okay, certain.
Mais le nom du joueur, je comprends très bien, on oublie ça.
C'est du marketing, ça.
Ouais. Ça commence surtout à un jeune âge. Moi, la première affaire que je conseillerais, c'est amener les patins, qu'il soit debout dans ses patins pour avoir la bonne hauteur exacte, puis qu'il dépose son bâton sur la glace, parce que souvent, le lie qu'on appelle, c'est l'angle entre la palette et le manche. Et des fois, le line n'est pas bon pour l'enfant. Donc, il y a juste un bout de la palette qui va être sur la glace. Fait que ça va être dur lancer, ça va être dur recevoir des passes. Fait que s'il y a un bon line, cet angle-là qui est excellent, ben ça va être beaucoup plus facile pour lui. Puis ensuite de ça, surtout jeune, si tu veux travailler ta façon de lancer comme il va apprendre plus tard, c'est d'y aller avec le bâton le plus flexible possible. Les compagnies sont en train de travailler très fort pour sortir des bâtons qui vont descendre jusqu'à du 20, même du 15 au niveau du flex, parce que tu enseignes à des jeunes de lancer d'une façon parce qu'ils sont pas capables de plier le bâton. Puis là, quelques années plus tard, tu réinventes ta façon de lancer parce que là, tu peux utiliser le bâton. Fait que s'il est capable de commencer plus jeune à utiliser ce flex-là, c'est une bonne chose. Mais ça va surtout se jouer dans la hauteur du bâton. Et là, ça fait mal au cœur de faire des tests, de le couper, puis là, tu réalises qu'il est trop court, puis là, tu rajoutes un manche. C'est de trouver la hauteur où le joueur va être confortable de manier la rondelle, de recevoir des passes, d'être capable de jouer avec la rondelle qui est près de ses patins et de prendre un lancer. Le gros problème qu'on voit souvent, c'est que le jeune, justement, le parent ne veut pas couper le bâton trop court, veut que le jeune en profite longtemps. Il se ramasse avec un grand bâton, ce qui l'empêche d'avoir une bonne motion pour lancer et avoir un bon flex dessus.
Mais je trouve que c'est bon de jouer avec des grands bâtons. Moi, ça m'a aidé. Mais je sais pas, Rich, jouais-tu avec des petits bâtons, toi?
Assez, oui.
Parce que tu m'as fait remarquer dans la Ligue nationale actuellement, là, Cale Makar, et c'est, non, Girard, qui joue avec les petits
Sam
bâtons.
Girard, ouais.
Avec des hockey de mini, jusqu'à avec des hockey de mini hockey, là. Tu sais, on voit plus ça. Il fut une époque où on voyait, c'était plus facile d'être habile puis de maléguer la rondelle avec un petit bâton. Mais en même temps, quand tu t'habitues à jouer avec un bâton plus long, moi, je trouve que tu peux avoir une meilleure efficacité dans plusieurs facettes du jeu.
Un défenseur, Bruno était défenseur. Je pense qu'on suggère des bâtons plus longs, là, pour, justement, pour travailler dans ta zone défensive, entre autres, là.
Toi, Bruno, ouais, t'en penses quoi?
Ben moi, j'ai tout le temps eu un bâton un peu plus long. J'ai tout le temps trouvé ça très, très utile. Comme tu mentionnais, défensivement dans les lignes de passe, je me suis habitué avec ça. Puis j'ai travaillé, puis j'ai développé mon lancer avec ça. Puis c'est un peu plus tard que j'ai réalisé, je l'ai coupé un peu, parce que ça m'aidait beaucoup avec la rondelle. Et j'étais quand même capable d'avoir mon positionnement, mon reach, avec ma portée, avec mon bâton pour être capable de couper les lignes de passe. Mais c'était surtout que tu es tout le temps dans un espace restreint. Que tu sois défenseur ou attaquant, à chaque fois que tu vas récupérer la rondelle le long du jaune, si ton bâton est trop long, tu n'es pas capable de tourner sur toi-même d'un côté puis de l'autre en protégeant la rondelle, en essayant de récupérer la rondelle parce que c'est trop long, tu te menottes toi-même. Fait que faut que tu ailles chercher une longueur où tu vas être capable de manier la rondelle près de tes patins, être capable de la protéger en faisant face à la bande. Puis de là, il y a plein d'autres choses que tu peux faire avec ça. Fait que c'est des fois, ça va être une différence d'un pouce, un demi-pouce, peu importe. Mais faut que tu ailles, faut que tu sois à l'aise avec la rondelle. Faut que tu sois capable de jouer proche de tes patins. Puis à ce moment-là, tu auras juste à mieux te positionner pour être capable de couper la passe. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une pole de piscine pour jouer défensivement. Tu es capable de le faire pareil.
Ah, c'est bon ça. Reed est tombé sur un texte publié par ESPN
dans l'intérieur de la bulle.
Ça. Comment ça se passe? ESPN à l'intérieur de la bulle. Puis parce que là, puis entre autres, il y avait l'entraîneur de Dallas qui dit j'ai hâte de pouvoir prendre de l'air frais puis du gazon. Ça doit pas être évident. Puis je comprends Bruno, tu n'as pas vécu à l'intérieur de la bulle, mais même à ça, quand tu jouais, est-ce que vos déplacements t'as quand même limité, puis les contacts avec la famille, surtout quand t'es en séries éliminatoires, c'est-tu si contraignant que ça que tu crois être actuellement en finale de la Coupe Stanley dans une bulle, dans une ville bulle comme Edmonton, où il y a peu de déplacements puis il n'y a pas de contact avec l'extérieur? Comment tu vois ça, toi?
Ben, il y a deux aspects à ça. Il y a un aspect que, habituellement, quand on voyageait ou qu'on arrivait dans une ville, de pouvoir aller souper à quelque part dans la ville, peu importe, aller au cinéma ou te changer les idées, même quand tu étais à la maison en deux matchs, des fois de te changer les idées, d'aller prendre une marche, d'aller, peu importe, c'est sûr que ça fait du bien à l'humain, personne ne veut être enfermé, on l'a vécu pendant le confinement, personne ne veut rester enfermé dans un édifice pendant longtemps, ça c'est sûr que c'est pas évident pour les joueurs, puis de juste se sentir un peu plus libre, parce que ça a des effets de prison, puis aux joueurs à qui je parle présentement, c'est très contrôlé, puis je comprends, la Ligue nationale a très bien fait ça, a réussi leur objectif d'avoir des séries éliminatoires et de garder tout le monde en sécurité et en santé. Mais ce point-là est pas évident. Mais une fois que tu rentres en séries éliminatoires, il y a cette bulle-là naturelle que tu veux créer. Je parle pas de la bulle dans laquelle ils sont, mais je parle de la bulle du joueur qui est concentré sur un objectif, qui est extrêmement demandant mentalement, très demandant physiquement. Et tu veux rentrer, puis toute ton énergie, ta concentration est sur les matchs que tu as joués, les séries, passer à travers les hauts et les bas mentalement. Puis il y a des joueurs, notamment je parlais avec certains joueurs du Lightning, il y avait la possibilité d'amener les familles pour ce qui est de la finale de conférence et de la finale à la Coupe Stanley à Edmonton. Et ça, c'était juste les familles canadiennes. Mais il y a plusieurs joueurs, sachant que c'est pas tout le monde qui pouvait le faire, puis ouais, sachant que t'es rendu de plus en plus près du but, il te reste moins de temps à faire qu'il y en avait loin de ta famille. Les gars se sont organisés pour que les familles soient bien entourées, que tout le monde est là pour aider les enfants, peu importe. Mais les gars restent dans leur but, puis par choix, on dit, tu dis quoi, on va se revoir après. Laisse-moi finir ce que j'ai à faire. Puis c'était le même concept pendant les séries éliminatoires. Moi, tu sais, je l'ai pas vécu énormément pendant ma carrière, mais je l'ai vécu au niveau junior, je l'ai vécu dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine. C'est pas un moment de venir me visiter. Viens pas me voir pendant ce temps-là, à moins que tu veuilles visiter la ville, puis je vais te donner tes billets, je vais te donner un high five après la game, puis that's it. On se voit pas plus que ça, parce que tu es sur une mission.
Pis mais tu voyais ta blonde pareil, tu vois ta blonde pareil, mettons, là.
Oui, mais tu peux dire que tu deviens un autre personnage. Ça prend des femmes et des blondes qui sont assez ouvertes d'esprit, d'essayer de comprendre ce que la bébite peut devenir d'un humain qui est dans une mission comme ça. Tu deviens très silencieux, t'es dans ta tête beaucoup, t'es en train de penser. Ça fait du bien pour le balance, changer les idées, regarder un film, aller souper, mais t'es dans quelque chose de très, très intense. Puis pour ces gars-là, c'est peut-être l'occasion de leur vie de gagner la Coupe Stanley. Fait que tous les œufs sont mis dans le même panier, puis ils sont juste concentrés. Fait que cette bulle-là vient quasiment aider ça à ce que les gars restent concentrés là-dessus.
Mais quand t'es dans la Ligue nationale, tu te levais-tu tard, toi, le matin? Tu dormais-tu plus longtemps?
Dans mes premières années, plus jeune, pour moi, je voulais dormir le plus longtemps possible, mais tu sais, plus vieux, les enfants embarquent, etc. Non, je préférais me lever, puis s'il y avait quoi que ce soit, je faisais une sieste dans l'après-midi, mais d'être capable de me lever tôt, d'avoir un bon déjeuner, puis j'ai trouvé ça pas mal plus bénéfique.
OK, donc voir les enfants, parce que c'est un ancien joueur aussi qui me disait, donc comment la femme était extraordinaire de dire, tu sais, les enfants, pas faire de bruit, réveillez pas papa, il est dans une série, ou, tu sais, des...
Tout est concentré sur l'activité de papa. Là.
Ouais, c'est ça, elle a joué au goaler, c'est là, son moment, avec les enfants, là, ouais, c'est souvent ça, hein.
Ben, surtout l'après-midi, tu sais, mettons, dans ces séries-là, ça devient long, ça devient éprouvant, les gars sont fatigués. Fait que, il y a une différence entre se lever à 5h30 parce que les enfants se lèvent tôt, ou te lever à une heure raisonnable, c'est, mettons, 7h, 7h30, où tu as eu une bonne nuit de sommeil récupérée, puis qu'après ça, tu peux aller te coucher dans l'après-midi pour justement te préparer à ton match, pour ton match qui est plus tard le soir. Ça devient difficile parce que là, t'as une famille au complet, que leur cédule va changer pour essayer de s'ajuster à la tienne. Puis souvent, moi, plus tard, c'est quelque chose que je voulais pas imposer à ma famille. Mm-hmm. Fait que c'était un peu plus, gars, je vais dormir, quand il faut que je me lève, les enfants sont là, je suis debout. Puis l'après-midi, j'aimais ça, essayer de... j'étais content quand les enfants étaient jeunes, puis ils avaient besoin de faire un somme, mais je timais mon somme avec celui des enfants. C'est plus facile comme ça, mais il y a certains après-midi que ça marchait pas. Mais là, c'est en finale de la Coupe Stanley, c'est d'autres choses.
Je jouais pas pro, puis je t'aimais mon somme d'après-midi avec celui des enfants. J'adore-tu bien ça? Ray est également tombé sur un texte intéressant de...
Sur les antidouleurs?
Ouais. De...
C'est sur TSN, mais c'est Richard Labbé qui fait un résumé ce matin. Bruno en a certainement pris connaissance.
C'est ça, les antidouleurs dans la Ligue nationale. Certains joueurs ont semblé dire que c'est très, très fréquent. Il y a Kessler qui dit que ça lui a causé des problèmes de santé à aller jusqu'à 30 fois aux toilettes par jour et que beaucoup de joueurs utilisaient ces produits-là, qui sont des médicaments quand même assez puissants. T'as été dans le show, je sais pas, t'étais pas fait mal beaucoup, si tu t'impliquais pas physiquement ben, mais...
Ça, c'est gratuit, ça.
Non, sérieux, t'en penses quoi, toi, de ces déclarations-là sur les antidouleurs?
J'ai regardé le documentaire de TSN, un documentaire extrêmement intéressant, puis je suis pas encore remis d'avoir regardé ça. J'en parlais, j'étais avec ma femme hier quand on regardait ça, et on l'a
t'en
vécu.
Bruno, t'en as appris en regardant le reportage?
Non, j'en ai pas appris.
Okay.
Ça ramenait souvenirs, ça ramenait ce que c'était, mais c'était une prise de conscience de tout ça. Puis là-dedans, c'est des gars contre qui j'ai joué. Et j'ai joué avec Zenon Konopka, qui est dans le documentaire, qui en est un qui est très éclopé de son temps dans la Ligue nationale, de la façon qu'il jouait. C'est le dernier joueur à avoir plus de 300 minutes de pénalité dans la Ligue nationale. C'est un guerrier, puis j'ai côtoyé ces gars-là, j'ai vu ces gars-là, puis c'est pour certains, tu voyais dans quelle direction ils s'en allaient. Puis c'est vrai, ma femme me rappelait, tu sais, j'en avais plein de petites enveloppes qui traînaient, mettons, chez moi pour antidouleur, les relaxants musculaires, toutes sortes de degrés de force d'antidouleur. Moi, j'ai été chanceux là-dedans. J'en ai pris beaucoup parce que j'ai eu, Steph, là, tu le crois pas, là, mais moi, j'en mangeais des rondelles, j'aimais ça bloquer des shots, puis tu sais, au gabarit que j'avais de me démener là-dedans. C'est arrivé une couple de fois que j'ai joué sur une patte ou avec juste une aile, mais ça arrivait, c'était un réflexe facile. Mm-hmm. Puis c'est vrai, à un moment donné, ce qu'ils disent dans le documentaire, c'est que quand tu prends ça, tu te sens invincible, tu sens plus cette douleur-là, d'un coup, tu te sens bien. Puis c'est ce que tu veux, tu fais tout pour essayer de bien te sentir et embarquer sur la patinoire.
Ouais.
Mais c'est d'être capable d'avoir le jugement puis de bien balancer les choses, mais c'est dur d'avoir ce jugement-là.
Ouais.
Quand tu défends, tu essaies d'avoir une carrière à la Ligue nationale, quand tu vis ton rêve, quand tu as la pression du fait de ils veulent te voir dans l'alignement. Moi, j'ai eu des moments dans ma vie, puis je me rappelle de ça, et c'est la volonté du joueur. Tu sais, les gars qui sont là, c'est des guerriers, c'est des gars très, très durs avec leur corps. Ça vient beaucoup du joueur. Moi, je me rappelle, j'étais blessé, j'avais une entorse à une cheville de troisième degré. Ça aurait dû être plusieurs semaines. Puis après une semaine et demie, il y a un de nos joueurs qui s'est cassé une jambe. Radek Martinek s'est cassé une jambe à Montréal.
Ouais.
Et mon GM me regarde, il dit, penses-tu que tu pourrais être prêt bientôt? Et je lui dirais pas, ben non, là, ben non.
Mais non, rappelle un jeune qui vient de prendre ma place.
Ben c'est ça. Ben oui, fait qu'il me tapait ça. Il me mettait un plâtre que j'avais autour de la cheville, puis les pilules, puis la piqûre dans la fesse, puis je voulais jouer. Je voulais, c'était la culture. Mais là, il y a une prise de conscience sur l'après. Mais moi, j'ai été chanceux, puis je remercie le ciel d'avoir eu cette mentalité-là. Je refusais. Moi, je trouvais que la vraie toughness, c'est de le faire naturellement. Fait que moi, mon but, c'était de me battre, puis souvent, je recevais les pilules qu'ils voulaient me donner, puis je les jetais. Parce que je me disais, j'ai tout le temps été anti-drogue, j'ai tout le temps été anti-aide extra. J'étais capable de le faire. Fait que j'ai eu beaucoup le réflexe de refuser certaines piqûres, certaines choses, parce que j'étais capable, je vais le faire comme il faut. Je vais le faire naturellement, sinon je peux pas le faire. Mais j'ai été longtemps sur les Célébrex avec certaines blessures. J'ai eu des opérations au genou que l'année suivante, c'était très difficile. Fait que j'en ai pris beaucoup d'anti-inflammatoires. Et là, jusqu'à maintenant, ça va bien, mais je le sais pas. C'est là qu'il y a une prise de conscience sur ce qui vient l'après.
Ouais.
Puis il m'a dit que c'était un choc. Puis la nuit a été un peu plus difficile hier soir parce que ça me ramenait bien des affaires. Puis là, je remettais en question bien des décisions que j'ai prises. Puis là, c'est aujourd'hui que je veux la vivre avec mes enfants. Puis quand dans le documentaire, quand tu regardes Ryan Kessler,
ouais,
qui dit qu'il peut même pas profiter de ses enfants. Tu sais, le gars, il y a un gymnase dans sa maison. Je pense qu'il a bien fait financièrement. Il y a un gros gymnase avec un il peut jouer au basket chez eux. Il a fait de l'argent dans le jouant à la Ligue nationale. Mais je pense qu'il changerait tout ça pour juste être capable de se mettre à terre puis de jouer avec ses enfants puis de lancer le ballon avec ses enfants. Fait que c'est là les prises de décision que tu as à faire quand tu as 20, 21, 22, 23 ans, peu importe, que tu as beaucoup d'argent qui te brasse devant le nez, que tu as le rêve de la Ligue nationale puis que tu as tout ça, que ton esprit n'est pas clair à ce moment-là.
Moi, j'en reviens pas que tu aies été répondu à Harry que tu n'as rien appris. Ça veut dire que c'est... Et ça donne de la crédibilité à ce documentaire-là en disant ça se passe vraiment comme ça. Là, c'est pas charrié ou grossi. Dernière question, là, parce qu'on doit se laisser. Est-ce que... Mais là, ça, tu sais, c'est beau, ça, c'est la Ligue nationale, mais ça commence quand? T'as-tu commencé ça junior, midget, bantam? Ça commence où, là, ces genres de pilules-là?
Ben, pour moi, dans mon expérience, puis je ne sais pas à quel point ça a évolué, mais ça vient surtout avec le fait, puis on le voit dans le documentaire, avec le fait qu'il y a beaucoup de partenariats entre des gros centres médicaux et les équipes de la Ligue nationale.
Okay.
T'as accès à tout ça. Au niveau junior, nous, on n'avait pas accès à tout ça. T'avais le thérapeute qui était là, il y avait des Tylenol, il y avait des choses, il y avait des anti-inflammatoires de base pour t'aider, mais il pouvait pas avoir un médecin sur commande qui soit là avec la drogue qu'il fallait pour te geler la jambe ou peu importe. C'était pas comme ça. Fait qu'il fallait que tu sois capable de jouer. Sinon, ben, il trouvait des façons, il te tapait, mais tu jouais avec cette douleur-là. C'est l'accès à ça, c'est plus tard quand ça vient, surtout au niveau professionnel, c'est que peu importe c'est quoi, tu as quoi le matin, tu viens le voir, tu ne penses pas pouvoir patiner, mais une heure après, il y a un médecin qui est là, qui te regarde, bon, voici ce qu'on peut faire, puis tu trouves une solution, puis le soir, tu es sur la glace, puis tu joues ton match. Fait que cet accès-là, cette facilité d'avoir recours à ces drogues-là, c'est ce qui fait que ça devient monnaie courante, ça devient, une fois que tu l'as essayé, ta première blessure, là, t'en as pas besoin jusqu'à temps qu'à un moment donné, t'as mal une cheville, t'as vraiment mal, t'es pas capable de patiner, là, d'un coup, tu prends ce pilule-là, pis t'as dit, ouais, je suis capable de patiner, j'ai rien senti, ça a bien été, j'étais sharp, j'étais capable de bien lire le jeu, j'étais pas d'un nuage, je me sentais bien, mais en plus, j'avais pas de douleur, mais t'as, redonne-moi ça, je vais en prendre un autre, là, j'ai un peu mal dans le dos, mais donne-moi un autre, je vais être correct, puis ça devient un peu trop facile.
Alors, c'est ça. Je comprends très bien.
The Problem of Pain, c'est comme ça que ça s'appelle. TSN. Ouais. Vous pouvez trouver ça, je pense, assez facilement. Oui.
D'après moi, on peut le retrouver sur Internet. Hein. Vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment. Répète le titre déjà.
The Problem of Pain.
D'accord.
Hey, le Bruno, problème du pain.
Oui, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Bruno, encore une fois. Fort intéressant. Puis, mercredi prochain, on se parle à l'heure, c'est sûr.
Et les promesses.
C'est pas grave. Moi, je vous écoute le matin. Je vous adore. Fait que n'importe quand.
T'es gentil. Bruno Gervais, notre analyste de hockey, ici pour Cogeco et le 93. On s'arrête quelques instants. Au retour, on s'en va dans un autre domaine complètement. Le tourisme, les chambres d'hôtel, tout ça, à cause de la pandémie. On s'en va vers où? On s'en va vers quand? Quand est-ce que ça redécolle? On parle de ça avec Alain April.